Tirez, vous êtes là? Can aussi? Oui? Ils n'ont pas de micro. Bon, on vient d'être là. Bien, allez messieurs, on y va. Alors, le Daled, il dit, Rafranina Aveshem Pinchas Amar. Dit 18 pa'amim mazkir ha'avot ba'Torah. 18 fois, on mentionne les avot dans la Torah. C'est-à-dire la mention des avot Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous ensemble. Elle figure 18 fois dans la Torah. Il y a bien plus que 18 fois Abraham ou Yitzhak ou Yaakov, mais la mention des trois ensemble figure 18 fois. Et c'est Keneged Kein Kavu Chachamim Yutchel Brachot Shebatfila. Et c'est par référence à ces 18 mentions des Avot que les Chachamim ont instauré 18 bénédictions dans la Amida, dans la Shmoneh Esrei. V'im yomar lecha adam tisha asarem. Et si quelqu'un te dit en fait c'est 19, c'est pas 18, et morlo, alors dis-lui ve'ine Hashem nitzav alav letu min aminyan. Alors réponds-lui que ici chez nous c'est marqué Veine Hashem Nitzav Alav. Voilà, Hashem est debout, enfin au-dessus de Yaakov. Il ne fait pas partie du Minyan. On ne comprend pas très bien de quoi on parle ici, parce que dans Veine Hashem Nitzav Alav, Dans cette phrase-là, en tout cas, on ne voit pas Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? On va regarder. Alors évidemment, ce qui est cité ici dans le texte, c'est le début, c'est marqué « Veine Hashem Nitzav Alav Vayomar » Il a dit, donc Hashem est au-dessus de l'échelle, et il a dit « Ani Hashem Elokei Avraham Avicha Velokei Yitzhak Haaretz Asherata Shochev Alea » Cette terre sur laquelle tu es couché, « Lecha Etnena Ulzarecha » Alors c'est vrai que ça s'adresse à Yaakov, et on mentionne Eloke Abraham et Eloke Yitzhak. Donc quelque part ils sont là les trois avot, mais ils ne sont pas mentionnés Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors si quelqu'un te dit ben, ça fait 19 avec ça, ben, dis-lui que celui-là il ne compte pas. Et si maintenant quelqu'un te dit Vimemal Chadam Yudzainhem, et si quelqu'un te dit ne sont que 17 finalement, Emorlo Vikare Vahem Shemi Veshem Avotai Abraham Vi Yitzhak. Par contre, dans le verset de la bracha que Yaakov donne aux enfants de Yosef, quand il dit « Vikare bahem shmi » et mon nom, que mon nom soit mentionné en eux, quoi. Mon nom est le nom de mes ancêtres Abraham et Yitzhak. Ça fait partie des 18. Donc c'est curieux, c'est-à-dire que il y a un verset qui ne contient pas Yaakov. Celui-là, on te dit non, celui-là, il ne compte pas. Ça ne fait pas 19. Et maintenant, mais il y en a un autre qu'on compte, bien que ce ne soit pas marqué explicitement non plus. Yaakov, c'est marqué Shemi, mon nom. Voilà, donc ça c'est le début de ce texte, on va quand même lire jusqu'à la fin de ce paragraphe. Et le texte continue, il lui dit, comme je vous ai lu, Haaretz asher ata shochev aleha, c'est la terre sur laquelle tu es couché, lecha etnena ulzarecha, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Rabbi Shimon, Mishum bar Kapara, Amar, Kefala, Kepinkas, Unetana, Tachat Rosho, Kinash de Amar, Mint Chot Reshach, Didach. Alors, il a roulé cette terre, il a plié cette terre comme un pinkas, comme un carnet, Unetana, Tachat Rosho, et il l'a mise sous la tête de Yaakov, comme les gens disent, Mintrot Reshach Didach, que ce que tu as sous ta tête est à toi. Et Ravuna Beshem Rabbi Elazar Amar Ubilvad Sheye Nikbar Alea, mais à la condition qu'il soit littéralement enterré, aleha, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, sur cette terre. C'est-à-dire, est-ce que ici ça porte sur Yaakov, que Hachem lui dit, il fait une promesse, il lui dit la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et donc, ici, ils lisent le coucher dont on parle, c'est pas le coucher de Yaakov qui est couché et qui rêve, mais qui est couché définitivement dans la terre, qui sera enterré. Être couché dans la terre, comme on dit, c'est marqué sur Avraham Avinu, donc il était Shochev, Shochev be Cheshbon, be Chevron, oui. Là-bas, c'est marqué celui qui est enterré là-bas à Chevron. Donc Shochev, ça peut vouloir dire être couché sur la terre, c'est couché dans la terre, sur la terre, ça peut être enterré. Donc eux, ils disent, attention, il y a une condition, c'est que Yaakov soit enterré sur cette terre. Si avec cette condition-là, on comprend mieux pourquoi Yaakov voulait, il y a beaucoup d'autres raisons, mais pourquoi Yaakov voulait absolument ne pas être enterré en Égypte, même provisoirement. Il voulait, parce que ça fait partie du Kinyan d'Eretz Israël pour lui. Au-delà de, il ne voulait pas être divinisé, il ne voulait pas être, c'est tout ce qu'il ne voulait pas. Et là, en l'occurrence, on comprend un peu mieux pourquoi, ça donne une raison supplémentaire pour expliquer qu'il voulait être enterré d'Afka en Eretz Israël. Bien, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paragraphe? Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? On dit donc, il y a 18 mentions des patriarches, trois patriarches. Alors c'est intéressant, c'est un midrash qui est quoi? Midrash, il est sur ce verset, là, dont on nous dit qu'il ne fait pas partie des 18, n'est-ce pas? Si quelqu'un te dit, il y en a 19, mais non, mais celui-là, il compte pour beurre. Donc c'est intéressant qu'on ait mis justement cet enseignement sur celui-là, qui ne compte pas. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle celui-là ne compte pas? Oui. C'est juste, mais le prochain, celui qu'on compte, pour passer de 17 à 18, celui-là, hein, Jacob non plus n'est pas mentionné dedans. Mais néanmoins, une grande différence, c'est que dans le nôtre, dans le passouk de Vayetse, Hachem se présente à Jacob, il y a Ni Hachem, Eloke Abraham, Avicha, Eloke Yitzhak, etc. Donc il se présente comme le Dieu d'Abraham et d'Yitzhak, et il ne lui dit pas Ani Hachem Eloke Ha ve Eloke, par exemple. Donc il n'est pas mentionné comme les autres. Tandis que dans la Bracha, il dit Vikare Baem Shemi Veshem Avotai. Mon nom est le nom de mes ancêtres, Abraham et Yitzhak. Donc en tant que nom, il est mentionné Shemi. Ce n'est pas marqué Yaakov, mais c'est marqué Shemi, mon nom. On comprend que dans ce triplet-là, Shemi, Veshem Avotai, mon nom et le nom de mes ancêtres, Avram et Yitzhak, le nom d'Yaakov est sur le même plan que celui d'Avram et d'Yitzhak, tandis qu'ici, il n'est pas du tout sur le même plan. Hachem se présente à lui en lui disant « Je suis le Dieu d'Avram et d'Yitzhak ». Il ne lui dit pas « Je suis ton Dieu ». Il va lui dire plus tard, mais là, ici, il ne lui dit pas. Donc on comprend déjà qu'il y a une différence. Voilà. Maintenant, on sait bien que 18 c'est Chai, 18 c'est la vie. Et par conséquent, 18 fois la mention des Avot, c'est dire d'une certaine manière que la vie des Bnei Israël, elle est liée avec les Avot. Évidemment que le clan Israël existe grâce aux Avot, grâce au travail que les Avot ont. Maintenant, ce Midrash, il vient, il dit quelque chose qu'on connaît par ailleurs, c'est d'autres textes qui disent un peu la même chose, que les Chachamim, quand ils ont jugé combien de brachot il fallait mettre dans la Hamida, ils ont jugé, bon, c'est marqué nulle part que la Tfila se fait avec 18 bénédictions, c'est pas... Dans le mot de fila, il n'y a pas de référence à 18. Dans la Amida, il n'y a pas non plus de référence à 18. Pourquoi on a pris 18? Alors, on pourrait dire, très bien, 18 c'est normal, parce que 18 c'est la vie, et donc il est clair que ce qu'on demande, c'est tout ce qui est nécessaire pour la vie du clan Israël. Et maintenant qu'on s'appuie sur ceux qui ont donné la vie au clan Israël pour demander la vie à Hachem, ça paraît assez logique, cette référence-là. Maintenant, on peut se demander, qu'est-ce qu'il veut ce Midrash en disant, si quelqu'un te dit qu'il y en a 19, réponds-lui comme si. Si quelqu'un te dit qu'il y en a 17, réponds-lui comme ça. Pourquoi les gens ils te diraient qu'il y en a 19, 18, 19 okay. Pourquoi c'est dit sous la forme? Si quelqu'un te dit, c'est quoi? Il te conteste 19 ou 18, ou 17. Pardon?
C'est les ambiguïtés qui ont pu être confrontées aussi. Ils ont pu se poser eux-mêmes ces questions, donc ils font part de leur conclusion.
Mais est-ce que chaque fois... Bon, d'abord, on voit très bien qu'en réalité, il y en a 19. Oui. Il y a 19 mentions. Tout compris, il y en a 19. Alors maintenant, si tu viens et tu me dis qu'il y en a un qui ne compte pas parce que ce n'est pas explicite, alors je te dis, mais dans ce cas-là, il n'y en a plus que 17. Bon. Si déjà, tu ne comptes pas ceux qui ne sont pas explicites. Il semble qu'il y en ait 17 où c'est marqué Abraham, Yitzhak, Yaakov, en toutes lettres. Je n'ai pas vérifié. Mais... Alors, et maintenant, tu dis, quelqu'un vient qui dit il y en a 19, en vérité. Parce que celui qui dit il y en a 19, il s'est appuyé là-dessus sur ce verset, et il s'est dit, ben, tu vois bien qu'ici, on parle d'Abraham et Yitzhak et Yaakov. Si on parle à Yaakov et on lui parle d'Abraham et Yitzhak. Donc, voilà, ils sont là tous les trois dans le, mentionnés en même, enfin, mentionnés ou, ils sont présents tous les trois sous. Alors, il faut dire, non, ça, il n'y en a pas. Celui-là, il compte pas. Alors maintenant, si tu me dis que celui-là ne compte pas, ça veut dire que tu ne comptes que les explicites, alors il n'y en a que 17. Alors il dit non, non, il y a... Parce qu'il y a une autre... Les explicites, ça ne veut pas dire Avraham Yitzhak Yaakov obligatoirement, mais par exemple, Shmi Beshem Avotai, ça, c'est aussi explicite. Donc, alors, si on essaie de regarder d'un peu plus près, qu'est-ce que c'est... Quel est le problème de celui qui pensait qu'il y en avait 19? Qu'est-ce qu'on lui a appris en lui disant on ne compte pas celui-là? On ne compte pas celui-là parce que Elokei Yaakov n'est pas dit ici, et il ne lui dit pas je suis Elokecha. S'il y avait eu Elokecha, probablement que ça aurait été différent. C'est de leur vivant, on ne dit pas, mais de leur vivant, mais bon, là, c'est pour ça aussi. Là, il y a un problème parce que il est encore vivant. Il y a des moments où, effectivement, là, il est encore vivant, Yitzhak Avinu. Ouais, alors bon, on peut s'en sortir comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il veut, celui qui dit on compte tout ça, il y en a 19? Et on lui dit non, ça compte pas. Quel est l'aller-retour, disons, dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, formellement, ça veut dire, effectivement, comme les avots apparaissent ici, comme les porteurs du nom, enfin, de la divinité, comme les supports de la divinité, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, c'est-à-dire qu'Avraham et Yitzhak sont les porteurs, comme on a vu plus haut, que les Bnei Israël, ils portent leur divinité, c'est pas qu'ils se mettent au-dessus des divinités comme l'égoïme. On avait vu que l'égoïme, eux, ils ont, vous vous souvenez, c'est ce qui est juste au-dessus, les scélérats, en français, reposent sur leur Dieu, mais les justes, Hachem repose sur eux. Donc Hachem se tient. Donc là aussi, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, ils sont la Merkava, ils sont le support, le chariot. Alors là, comme il n'est pas dit Elokei Yaakov, il est même Elokecha, alors ils n'apparaissent pas comme le support. Lui, il pensait que puisqu'on leur parle, ça veut dire, peu importe dans quelle situation, mais on veut dire par là que quelque part, s'ils ne sont pas ensemble comme support, comme on dit à Avot Enen Amerkava, les Avot sont la Merkava. Ils sont le chariot. Bien qu'en fait, eux, ils ne soient que trois, et que le chariot, il est. Quatre roues, en fait, ou quatre supports. Ça, on verra après, mais ils sont la Merkaba. Ça veut dire que ils portent Hachem. Hachem est au-dessus d'eux, il se tient au-dessus d'eux, donc, d'une certaine manière, ils apparaissent comme le porteur. Comme le porteur. Alors, on ne dit pas qu'ils portent Hachem, parce que même le Aaron, on disait que Aaron, c'est Nosav. Que le Aaron à Kodesh, il portait ses porteurs. Il y avait bien des gens qui avaient les barres du Aaron sur les épaules, mais en fait, ils ne portaient rien du tout, c'est au contraire le Aaron qui les portait. Ils étaient. En fait, ils faisaient semblant de marcher, quoi. Semblant de porter. Et c'est eux qui étaient portés. Dans l'idée, on comprend très bien que personne ne peut porter le Aaron ou peut porter la présence divine. Ça n'a pas de sens que l'homme porte. Mais. Hachem accepte que les choses apparaissent comme cela. Apparaît. Et d'une certaine manière, Hachem dit, vous êtes la Merkava, ça veut dire, c'est vrai que Hachem n'est connu dans le monde que par le biais des Bnei Israël. Des Avot, plus exactement.
Dire
effectivement ce qu'Hachem lui dit, c'est dans. Pour l'instant, il est en quelque sorte. Mais alors, c'est très étonnant, n'est-ce pas? Parce que il n'est pas qualifié, lui, mais qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Qu'il est le seul à être, lui, sur le trône divin. Dans les quatre images, les quatre porteurs de. Alors, il y a l'aigle, et il y a le lion, Et il y a une figure humaine, et la figure humaine en question, c'est Yaakov. Et il y a un midrash qui dit que les anges qui montent et qui descendent, ils sont très étonnés de la correspondance tellement parfaite qu'il y a entre le visage de Yaakov qui est là couché et qui rêve, et le visage de Yaakov qui est sur le trône divin. Donc, il est, dans son rêve, il est même, non seulement il y est, mais il est même le seul. Bon, il n'y a pas dans le trône divin, il n'y a pas Abraham et Yitzhak, il y a Yaakov, Israël. Mais ça, c'est seulement dans son rêve, ça veut dire ce qu'Hachem lui montre, voilà peut-être à quoi tu peux aspirer, quoi. Voilà, en fait, voilà ta trajectoire si tu veux. Hachem lui dit, bon, tu veux, tu peux faire ça, mais il n'y est pas encore du tout. On peut très bien comprendre qu'on ne peut pas prendre appui pour prier, parce qu'il y a cet inhomogène entre ceux qui ont déjà fait le travail et lui qui est potentiellement capable de faire le travail, mais on ne sait pas s'il va le faire. Déjà qu'il y a le Midrash qui dit qu'il n'a pas voulu monter, Hachem lui a dit monte à l'échelle, il ne voulait pas monter, et il n'est pas monté d'ailleurs, donc c'est pas évident toute cette affaire. Donc le Midrash viendrait dire ici, ben voilà, pour prier, on ne peut pas prendre appui sur quelque chose qui n'est qu'une potentialité. Alors, il faut prendre appui sur des choses qui sont réelles, qui sont déjà, c'est-à-dire les avot qui ont actualisé leur potentialité en fait. Lui, il a une potentialité, on ne sait pas. Il va effectivement l'actualiser ou non. Par contre, quand il dit Shmi Veshem Avotai, que mon nom et le nom de mes ancêtres soient dans ces enfants-là, c'est-à-dire là, il a déjà dit que ses enfants, Ephraïm et Ménaché, sont pour moi comme mes enfants. C'est-à-dire, voilà, mon nom est dans mes enfants, il est dans eux également. Donc on peut prendre appui sur ce verset-là pour prier. Parce qu'en fond, qu'est-ce qu'on demande dans la prière? On demande que d'une certaine manière, que toutes les potentialités dont Hachem nous a doté, de tout ce qui existe dans le monde, est fait pour moi, comme on dit, Shafayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi, pour que je le mette bien sûr au service d'Hachem. Mais donc ce monde créé, donc il a toutes ses potentialités pour que je mette, je demande que s'actualise ses potentialités au fur et à mesure des besoins du clan Israël. Et donc pour faire ça, il faut prendre appui sur un commencement d'actualisation des potentialités du clan Israël, et ce commencement, il est dans l'actualisation des potentialités des Avot. C'est-à-dire être porteur du nom, les porteurs du nom, qu'est-ce que ça veut dire être porteur du nom, avoir le nom de quelqu'un? On dit « Shmi Veshem Avotai ». Mon nom est le nom de mes ancêtres. On va les appeler comme ça. Ikare Bahem. C'est-à-dire, on va appeler les Bnei Israël. Mon nom est du nom de mes ancêtres. Alors, c'est assez intéressant parce que les Bnei Israël ne sont pas appelés Dafka, Bnei Yitzhak ou Bnei Abraham. Nous sommes appelés Bnei Israël. C'est vrai que les Bnei Israël sont Bnei Avraham et Bnei Yitzhak par élimination de d'autres candidats à porter ce nom aussi. J'aime dire à Abraham et Yitzhak, Bnei Yitzhak Ikare Lechazara. C'est en Yitzhak que tu auras une descendance. Ah, il a une autre descendance qui s'appelle Ishmael, éventuellement d'autres, ça. Non, Ve Yitzhak Ikare Lechazara. C'est-à-dire ta descendance, ceux qui seront vraiment ta descendance, ceux qui seront les fils d'Abraham, donc ce ne sont que les Bnei Israël. Mais ce n'est pas évident, si vous voulez. Pourquoi? Parce que comme il y a des déchets, des enfants qui ne deviennent pas Bnei Abraham, ce n'est pas évident quand on voit Abraham et on voit ses enfants. Mais idem pour Yitzhak Avinu. Seulement, il n'y a que chez Yaakov Israël, que toute la descendance est incluse dans Israël, enfin forme Israël, sans qu'il y ait quoi que ce soit à en éliminer. On n'a rien à éliminer dans la descendance de Yaakov. Vitato Shlema, sa descendance est parfaite, complète. Donc, on comprend ici que nous soyons bnei Israël, parce que bnei Abraham, c'est vrai, bnei Yitzhak, c'est vrai, mais ça nécessite la Torah Shebaal Peh, c'est la Torah écrite. Sur Yitzhak, c'est marqué Be Yitzhak Velo Kol Yitzhak.
On dit Ata Avinu. Pourtant, on dit Yitzhak.
Oui, ils lui disent, les Bnei Israël lui disent, c'est la Torah Shebaal Peh, Ata Avinu. Peut-être, il faut l'entendre, hein, c'est Yaakov qui parle, donc évidemment il ne peut pas, il va dire Shmi Veshem Avotai, mais Shmi c'est d'une certaine manière et Shem Avotai d'une autre manière. Bon. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, effectivement, comme on a dit, ce verset-là, on peut le compter parce que c'est Shemi, parce que c'est mon nom qu'on va mettre. Et mon nom, c'est, je l'ai déjà, quoi, quelque part, ça y est. Alors, c'est vrai que c'est son nom, mais c'est son nom de Yaakov, son nom d'Israël ne lui a pas encore été donné. Et nous, on ne s'appelle pas en général Bnei Yaakov. Non, on s'appelle Bnei Israël. Et son nom d'Israël, à ce moment-là, il ne lui a pas encore été donné. On est dans le rêve, il est en train de partir chez Laban. Bon, il n'a pas du tout encore, ce nom-là va lui être donné après, quand il aura... Pardon ?
Je comprends mal, mais la phrase « Shmi Veshem Avotai », c'est à la fin de sa vie, il est déjà nommé Israël, c'est vrai ?
Non, pourquoi ? Il dit « Vikare Baem Shmi Veshem Avotai », c'est une bracha, oui, qu'il va leur donner plus tard, mais... Bon, tu as raison, en vérité, c'est juste, c'est ça. Ça c'est dans la bracha qui donne à ce moment-là, il s'appelle déjà Israël, c'est juste, effacer ce que j'ai dit. Non, mais cette terre-là, là, il est encore en Eretz Israël, là.
Oui. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'accomplit, en fait.
Dans les Tsoukim, tu veux dire?
Oui.
Dans les Tsoukim, le passage dont on parle, par exemple, Shmi Veshem Avotai, c'est vrai qu'il a été donné en Égypte. Non, mais ça, c'est une chose. La promesse de la terre, c'est une chose. Elle a été donnée en Eretz Israël. Et maintenant, le fait qu'il y ait 18 occurrences du triplé Abraham, Israël, Yaakov, ça s'est réparti sur toute la vie de Yaakov.
Est-ce qu'il y a un lien entre le kinyan de la terre et le fait que Yaakov devient Merkava?
Il y en a sûrement, mais je ne sais pas.
De suite, on ne voit rien.
Mais... Si je ne vois pas dans ce Midrash-là de lien direct. Non, non, la terre, il a dû promettre à ce moment-là. La terre, il a dû promettre quand il part. Il est encore en Eretz Israël quand il rêve. Parce qu'il est à la Moria quand il rêve. Alors, sur le fait que la terre ait été pliée comme ça sous sa tête, alors, le Etz Yosef, par exemple, dans la colonne de gauche, le texte que vous avez dans vous, Clomar, Bemarian voit un idme keilu ares me coupel et tartav, le rochir bosh kulo. Dans cette vision prophétique, il lui est apparu que c'est comme si la terre était tout entière pliée sous lui, pour indiquer que il allait la, comme s'il faisait un kinyan sur toute la terre, il allait la conquérir entièrement. Ve'atam, et la raison pour laquelle effectivement on la plie comme ça, le fichier amakom alaz ou aikar ou aikari le kdusha. C'est en fait parce que pourquoi elle peut être ici, quel sens ça peut avoir que la terre à cet endroit-là, parce que cet endroit-là, c'est l'endroit du Misbéach, l'endroit de l'hôtel du Beth Amikdash. Quand on construira le Beth Amikdash, le Misbéach sera là, et donc c'est où le Kodesh HaKodashim ici, et par conséquent, ça a un sens de dire que c'est du point de vue de la Kdusha, toute la terre repose. Enfin, ou dépend de ce qui se joue là, à cet endroit-là. Donc tout est... Oui, tout est... On n'a pas voulu le faire disparaître, c'est pour ça qu'on a donné cette idée d'un carnet ou d'un espèce de... Il ramène ici, lui, chez Kolaret Somed Aliada, où c'est marqué que l'Even Shetia... c'est la pierre sur laquelle Aaron était posé dans le Betadash. Et cette pierre-là, c'est la pierre sur laquelle repose le monde entier, en quelque sorte. Oui, mais on la roule, c'était pas roulé comme l'autre, c'est pas un rouleau, c'est plus comme une aiguillette, comme si tu veux remettre. Si on plie.
Mais peut-être que la Torah n'était pas en rouleau.
Pardon ?
La Torah n'avait peut-être pas été toujours en rouleau, parce que là c'était avant le monde de la Torah.
Oui, mais a priori c'est pas la Torah, c'est la terre qu'on veut mettre ici, qu'on met sous lui.
Mais pourquoi cette comparaison alors avec un registre ou un livre ?
Parce qu'il explique comment ça veut dire que passe. C'est comme un pincas en hébreu moderne, c'est un carnet. Carnet, un petit machin avec des feuilles. Alors c'est oui, non, mais c'est comme on n'utilise que pas l'écriture. Un carnet, il s'appelle carnet même quand tu n'as rien écrit. Mais c'est la forme du carnet. Il fallait expliquer comment on peut imaginer, il explique qu'est-ce que ça veut dire on a replié. On a replié toute la terre. Comme si tu imagines qu'un carnet, c'est en fait toute une feuille qu'on a pliée, repliée, etc., plusieurs fois, puis ensuite, comme on avait avant des livres brochés où il fallait découper les trucs, bon, c'était la suite d'un pliage. L'explication, c'est seulement de dire que c'est comme ça qu'on peut parler de parce que si on dit là où tu as posé ta tête, ou même si là où tu as posé tout ton corps, ta chochev, alors qu'est-ce que c'est? Arba, c'est quoi? Un mètre carré? Deux mètres carrés? Qu'est-ce qu'il dit? La terre sur laquelle tu es, combien c'est? Deux mètres carrés? Oui. Alors, si on veut dire que ça représente toute Eretz Israël, il faut dire comment ce mètre carré-là, il peut représenter toute Eretz Israël. Alors l'idée, c'est qu'il faut imaginer la terre d'Israël repliée.
Mais apparemment, ça ne représente pas que la terre, ça
représente toute la terre. Non, ça dépend, parce que Hachem n'a pas donné le monde entier à... Il y a justement une différence. Even Shtia, sur Even Shtia, qui ramène, c'est le monde entier qui représente, qui repose sur Even Shtia. Mais ici, il veut dire, c'est seulement le ce qui repose sur le Beth Amikdash, d'après ça, c'est que la terre d'Israël. Parce que le reste n'a pas été donné à Yaakov. Nous n'avons pas... En tout cas, il ne faut pas le dire dans la rue. Quoi, en tout cas.
Il y a quand même le côté universel.
Non.
Israël qui...
Non. Pourquoi? C'est pas marqué ici. Tu as raison qu'il y a un côté universel, mais ici, rien de tel n'est marqué. Quand il dit « Ukumo shekatu vevenshtia », de la même manière qu'on dit que Evenshtia, le monde entier repose sur elle, mais ici, sur cet endroit où Yaakov a posé sa tête, ou bien, d'après l'autre version, là où il était couché, arrête, Sacherata, la terre sur laquelle tu es couché, quoi, ça fait un mètre carré, là, sur lequel il est tendu, je te donnerai cette terre. Alors, c'est la promesse de la terre, c'est Israël, c'est pas le monde entier.
Dans le verset suivant, il compare la terre à
la tombe. Où ça? Il dit comme le 5. On l'a pas encore fait, le 7. Non, mais ici, c'est pas du tout ça. Il parle d'autre chose, là. Là, on parle de la descendance, on ne parle pas du tout de la terre, d'Israël. On dit que c'est la fertilité d'Ebné Israël, elle reviendra de la Torah. Exactement comme la terre devient fertile quand il pleut ou quand on ajoute de l'eau.
Le style employé dans ce paragraphe, sur le jeu de posant des questions 17-19, est-ce qu'il y a aussi un parallèle à faire sur justement le choix de Nesré, sur lequel en fait il n'y a pas 18, il y a 19, où on ne peut pas du tout imaginer que il y a un peu
je crois pas que la 19e étant une bracha qu'on a ajoutée après à cause des Malchinim. Délateur, je n'ai jamais vu qu'on réfléchisse sur la Amida en termes de 19. D'abord, il y a un autre qui appelle la Shmona Esrei, même s'il y en a 19. Aujourd'hui, on appelle ça Shmona Esrei, c'est-à-dire la 18. Mais, je ne sais pas, donc on ne peut pas réfléchir de la même manière sur les 18 à la 19e. Donc, si je savais dire quelque chose, on pourrait peut-être l'envisager. Si vous avez quelque chose à dire, mais je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça aurait voulu dire. Yud-Zayin, on peut encore entendre. Parce que Yud-Zayin, c'est Gematria Tov. On pourrait dire, c'est le Tov. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie, mais c'est le bien. Mais Yud-Tet, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Il faudrait ajouter un bet, un tov, betov ou bien. Je sais pas. Il y a sûrement quelque chose, mais il me vient rien en ce moment sur 19. Non, pas obligatoirement. La condition qu'il soit inhumé, ça veut dire comme si. Oui. Ou bilvad. Condition que seulement si il y a un nikbar à l'air. Suffit pas. C'est-à-dire qu'on veut absolument lire le shochev dans les deux sens. Le shochev maintenant vivant et tu rêves, mais aussi shochev au sens d'inhumation. Question que vous posez, c'est en quoi le fait d'être inhumé quelque part, ça assied, ça va asseoir le kinyan de la terre sur la terre. Mais ça irait avec la remarque qu'avait fait ton voisin. Mais je suis. Ah non ?
Non, c'était pas pour ça.
Ah non, je dis pas que c'est pour ça. Mais si on disait que c'est seulement quand il y a l'occurrence, que si seulement on les compte que si Hachem est présent, alors ça serait justifié de faire 14 plus 4. Oui, alors maintenant, qu'est-ce que... On est revenu à nos histoires, là. Le fait d'être enterré...
Oui, déjà, effectivement, est-ce qu'il y a une notion de couche derrière, pourquoi c'est important d'enterrer, mais le point de départ, tu dis, je te donne cette terre. Bon, maintenant, est-ce que c'est une question géographique? Est-ce que c'est juste 2 mètres carrés sur lesquels tu es couché, je te la donne? Bon, il te donne la terre, ça y est. À toi et à tes enfants, est-ce que c'est parce que vous l'avez couché dessus qu'il me la donne? Non,
non, c'est pas parce que...
Dedans, tu travailles dedans, tu vis, tu meurs, tu as des enfants dedans, maintenant enterré, pas enterré, et le fait que tu sois couché à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils soient couchés? Si c'était... Est-ce qu'il fallait que ça soit seulement la nuit? Si c'était le jour? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de coucher? Qu'est-ce que ça nous apporte au fait qu'ils soient couchés à cet endroit-là? Que cet endroit-là, cet endroit où tu es, mais pourquoi cet endroit où tu es couché? En fait, c'est ça dont on est en train de parler. T'intéresses sur le mot coucher, quelle est la définition de coucher? Le deuxième rang, il dit coucher, ça veut dire mort, et le premier, il dit coucher, c'est en fait, ça suffit pas, il faut qu'on puisse toute la terre pour dire qu'en fait, bien entendu, c'est surtout pas l'endroit où tu es couché, c'est pas ton type.
Non, mais surtout que le Midrash dit que c'est Hachem qui a été me qu'appelle la terre. C'est Hachem qui, quand il lui dit, cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, alors il te dit, bon, ça n'a pas de sens, si tu me donnes 2 mètres carrés, qu'est-ce que j'en ai à faire? D'accord? Il dit non, alors Hachem lui-même, il a replié, il l'a glissé sous la tête de Yaakov, il dit, c'est, voilà, c'est concret, c'est une espèce de kinyan que tu fais en y vivant, comme vous dites.
Est-ce que ça veut dire que ce mot couché, il est beaucoup trop étroit? Et c'est parce qu'il est étroit qu'il y a ces deux rabbinis qui nous apportent ces explications, qui disent, ben en fait, comme c'est replié, donc en fait c'est tout, c'est la terre d'Israël. Et le deuxième qui nous dit, mais couché, il ne faut pas le voir.
Non, il l'entend, il dit, ou bilvad, ça veut dire, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut en plus.
Pour le mot
coucher, dans le Kriyat Shema.
À la limite, ça viendrait plutôt casser le dernier rang, parce que c'est où? C'est pas du tout. C'est pas le repos éternel.
C'est pour ça qu'il faut se demander, qu'est-ce que c'est que cette inhumation? C'est quoi? C'est une mise en graine, c'est comme s'il était une graine. Yaakov, ah non?
Jacob, ça n'a pas été facile d'être né en Israël, puisqu'il était en Égypte.
C'est juste, oui.
Il a beaucoup demandé à ses enfants, il n'était pas trop pour, etc. C'était d'être enterré sur place à côté de ses enfants.
Mais justement, c'est pour ça peut-être qu'il a. J'ai voulu le lire à l'envers, j'ai voulu dire que c'est peut-être pour ça qu'il tenait absolument, puisque la promesse a été assortie d'une condition. Alors lui, il voulait être sûr de réaliser la condition tout de suite. On ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Alors il dit à son fils, c'est tout de suite, toi tu as le pouvoir, tu m'enterres en Eretz Israël et tu ne vas pas me faire ce qu'on va faire avec Yosef, c'est-à-dire on va momentanément l'enterrer en Égypte, et puis quand on sortira d'Égypte, on aurait tout aussi bien pu prendre le cercueil de Yaakov Avinu avec, s'il avait été enterré en Égypte.
Si on veut d'un point de vue politique basique, c'est Jacob prouve que pour lui, la terre d'Israël, c'est le point important, puisqu'il demande, et c'est toute une histoire, qu'il soit enterré en Israël. Donc, il faut que lui demande pour qu'on puisse lui donner un fait.
Mais cette importance, ça touche à Rome, mais je ne sais pas si on va toucher.
Il est enterré au même endroit, il sera.
Oui, mais je veux dire, Abraham, il a agi pour qu'il a acheté le terrain.
Voilà. Non, mais une fois qu'Abraham l'avait acheté, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mon grand-père l'a acheté, mon grand-père a déjà acheté, je vais être enterré là où mon grand-père a acheté, je ne peux pas racheter une deuxième fois.
Non, mais Jacob, il a fait quelque chose en plus, ça,
il a dû unifier.
Héritage spirituel, ce qu'on sait dans l'autre sens, c'est-à-dire Si dans l'héritage veut dire on fait passer de la génération qui disparaît vers la génération qui vit encore, alors c'est la transmission. C'est le souci que Abraham a d'enseigner à ses enfants à sa maison. C'est une graine, après ça. C'est la graine. Ça a toute l'apparence d'être mort, mais c'est la vie. C'est porteur de vie. À condition qu'il soit inhumé dans cette terre, à ce moment-là, il va. C'est lui qui va faire en sorte que cette terre va être. Ça fait penser à ce là dont on parle souvent. Sur l'appartenance de la terre à Israël ou à Ishmaël. Je vous l'ai déjà raconté souvent ce Zohar, non? Pas ici?
Si.
Il y a un Zohar qui dit que le Tsar, le prince de donc la divinité de d'Ishmaël, il s'est adressé à Hachem, il a dit ce qui donne une part, enfin, ce qui permet d'avoir une part à la terre d'Israël, c'est la Mila, c'est la circoncision. Hachem a dit oui. Et on lui a dit, mais alors pourquoi moi et mes enfants, nous n'aurions pas une part, nous aussi on fait la circoncision, donc on devrait aussi avoir une part à Eretz Israël, dans Eretz Israël. Alors, c'est marqué dans Zohar que Hachem a essayé de se défiler, il a dit oui, mais vous ne faites pas la Mila de façon parfaite, puisqu'ils font, ils sont mal pareil, ils ne découvrent pas le gland. Ce qui pour nous ne serait pas cacher. Alors le Tsar chez Ishmael, il a dit oui, mais quand on fait une mitzvah imparfaitement, mais on l'a fait quand même, mais ce n'est pas parfait, donc on n'a droit à rien du tout, on devrait avoir droit à Israël de façon imparfaite. Et donc, dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu a concédé, il a dit, ok, lorsque Israël sera complanté, ça appartient au Bnei Israël. Donc, quand il y a des arbres.
Oui. Planté.
Oui. Non, j'ai dit complanté parce que je voulais dire que. Oui. Alors, planté. Israël n'est pas planté. Parce que lorsqu'on plantera, il y aura des arbres en Israël, ça appartient à Israël. Et quand c'est désertique, ça appartient à Ishmaël. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ces arbres-là? Qu'est-ce que c'est? D'habitude, les arbres, c'est les hommes. Les grands hommes, quoi. S'il y a des grands arbres, il y a des grands hommes. Ça veut dire que si la terre d'Israël est porteuse de grands hommes dans le monde de la Torah, alors ça appartient à Israël. Et sinon, ça appartient à Ishmaël. Ça veut dire que quand c'était désertique, c'est pas qu'ils ont pris quelque chose, c'est de facto, ça leur appartient. Après le Zohar, ça leur appartient. Alors, comme je dis tout le temps, moi j'ai essayé de vendre ça au KKL, pour les arbres, mais ils n'ont jamais voulu acheter. Mais si on ne lit pas les arbres comme les arbres, mais comme des grands hommes, bon, alors c'est une chose, mais si on lit comme des arbres, alors ce serait ça l'idée, c'est que si toi tu es enterré là-bas, tu vas enterrer quelqu'un, c'est pourquoi on enterre plutôt que de brûler les corps? Parce qu'il y a la symbolique de la graine, quoi. Il y a l'idée de la graine, de Triat HaMetim, etc. Conséquent, si on utilise la notion de graine, on voit bien que la graine, effectivement, elle meurt d'une certaine manière, mais c'est cette mort de la graine, cette décomposition de la graine qui va donner les arbres, même si c'est du blé, peu importe, dans la Torah, le blé, il y a une chita qui dit que l'arbre dont Adam et Eva ont mangé, c'était du blé. Donc, plus marqué que le blé, c'est la nourriture de la chokhma, la sagesse, une nourriture spécifiquement humaine, par opposition à l'orge, qui est la nourriture animale. Et alors, dans ce cas-là, on peut comprendre que pour avoir droit à la terre, il faut qu'il y ait des arbres. Pour qu'il y ait des arbres, ben, il faut que toi, tu dois t'investir, tu dois, en tant que patriarche, tu dois jouer le rôle de la graine, enfin, ou du plant, ben, ce qui assure qu'effectivement, ça pousse, quoi, que la terre joue, appartienne au Bnei Israël. Je te la donne à condition qu'elle appartienne au Bnei Israël. Appartient au Bnei Israël, ça veut dire qu'il y a des arbres. Si, pour qu'il y ait des arbres, ben, à toi de jouer pour qu'il y ait des arbres. Donc fais-toi enterrer là-bas. Si tu ne fais pas enterrer là-bas, ben, tu n'auras pas fait ce qu'il faut pour que ça pousse. Donc il n'y aura pas d'arbres. Tous les sens du terme. On pourrait éventuellement retomber sur nos pieds avec ça. Si vous n'y voyez pas d'objection. Si vous avez une objection, j'entends. Il n'y voit pas d'objection, ça va. C'est pas tout le temps, hein. Non, parce que, étant donné qu'on parle de Ilanot, vous avez une voix prépondérante.
Mais ça voudrait dire qu'en diaspora, d'une certaine manière, on n'a pas fait pousser des arbres. Pourtant, il y a eu quand même.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands hommes, c'est le contraire. Si on est, la justification d'Eretz Israël, ce serait des grands arbres, des hommes, des grands hommes. C'est le contraire. Il faut que, si Israël ne produit rien de spécial, si c'est pour être une terre désertique, de point de vue, il n'y a pas de beaux arbres, il va pousser comme dans le désert, bon ben ça c'est bien pour Ishmaël.
C'est passé dans la
diaspora. Oui, je suis d'accord. Ça n'a pas empêché. En Eretz Israël, il n'y avait pas de grands hommes à ce moment-là, quasiment pas. D'où ce que vous voyez ici, tout ça, ça a été produit en dehors d'Eretz Israël. Sauf la Mishnah. Oui. On parle de logique. Ça veut dire il faut des grands hommes pour avoir la terre d'Israël, au Bnei Israël. Ça ne veut pas encore dire qu'en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de grands hommes. Ça n'a rien à voir. On ne dit rien sur en dehors d'Eretz Israël. Le Zohar, il ne parle que de la terre d'Eretz Israël qui appartient aux Bnei Israël quand les Bnei Israël font pousser les arbres. D'un autre côté, on comprend très très bien qu'une terre sur laquelle il n'y a pas d'arbres, elle donne rien, quoi. Le vent va passer, ça va s'éroder en permanence, quoi. Il ne va rien pousser d'autre non plus. D'après ce que plein de gens disent, il y a plein de ces déserts qui un jour étaient des endroits verdoyants, je veux dire. Tout à fait. Oui.
Voilà.
Non, mais seulement si tu viens la peupler et que tu ne la mérites pas, il va te recracher. Il nous a déjà craché deux fois, je veux dire, vomi deux fois, c'est pas. Non, on voit très bien que ça ne suffit pas. Il ne faut jamais oublier que le Beth Amigdash, il a été détruit quand on l'avait. Pour dire une palissade. Oui. On ne pouvait pas perdre le Beth Amigdash sans l'avoir eu préalablement, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, on l'avait et on l'a perdu. Donc c'est pas que le Beit Hamikdash à lui tout seul fait le travail. Donc c'est pas que de peupler la terre, ça va faire le travail. Il faut quelque chose d'autre. On ne peut pas imaginer peupler une terre si on n'y plante pas des arbres. C'est pour ça que c'est difficile d'imaginer que ça veuille seulement dire des arbres. C'est pas viable, une terre. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une terre s'il n'y a pas d'arbres? Vehaya Zaracha Kaafar. Hachem lui dit. Donc cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta descendance. Et à ta descendance, Vehaya Zaracha Kaafar Aretz, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta Yama Vakedma Vatsafona Vanegba. Et tu éclateras tous azimuts, c'est-à-dire côté mer, c'est-à-dire côté mer, côté lever du soleil, donc ouest, est, nord, sud. Venivrechou vechakol mishpechota adama, et elles seront bénies en toi ou par toi, toutes les familles de la terre, ou vezarecha, et par ta descendance, et dans ta descendance. Alors le Midrash prend la première partie. Vehaya Zaracha Kafar Haaretz. Donc ta descendance sera comme la poussière de la terre. Qu'est-ce que c'est comme Bracha? Ma Afar Haaretz Eino Mitbarech Ela Bemayim. La poussière de la terre, elle n'a de Bracha que si on y met de l'eau. Sinon, il n'y a rien qui va pousser. כך בניך אין מתברכין אלא בזכות התורה שנמשלה למים. De la même manière, tes enfants ne seront bénis que par le mérite de la Torah qui est comparée à l'eau. ומה אפר הארץ מבלה את כל כלי מתכות והוא קיים לעולם, כך בניך מבלין את כל העולם והם קיימים לעולם. De la même manière que la terre, que la poussière de la terre, elle fait disparaître, ça veut dire qu'elle survit à tous les kélims qui sont en métal, tous les objets métalliques. Donc elle entre dans tous les objets métalliques et elle perdure. De la même manière, tes enfants, ils vont détruire le, ils vont pas détruire, mais ils vont être confrontés au monde entier. Le monde va disparaître, mais eux, em kayamim leolam, mais eux, ils vivront éternellement. Uma afar asui daish. La kol, kach banecha asuim daish la malchuyot. Ata udichtiv, vesamtia beyad mogaïch, maou mogaïch, ilen dim megin mechatin mechatich, umiyasrin otach, umatishin et kochech. Afilu ken le tovatech, vekashkishin umimarkin lach. Min Chovaïr. Et ça continue. Kmode Tema, Vivim Tomagegna, Tsimcha Tevarech. Asher Amrou le Nafshech, Shechivina Avora. מה היו עושים להם? היו מרביצים אותן בפולטריות ומעבירים קרים עליהם. Ça continue, un peu long, on va pas faire tout ça. Qu'est-ce que nous dit au début, là? Donc d'abord, effectivement, ta descendance est comparée donc à la poussière de la terre. Et alors qu'est-ce qu'on va utiliser là? Regardez cette première chose, après on va s'arrêter. La poussière de la terre, elle n'est bénie, ça veut dire elle ne produit quelque chose que grâce à l'eau. De même, tes enfants ne produiront quelque chose que grâce à l'eau, mais l'eau, c'est une métaphore pour la Torah.
C'est
monter jusqu'au ciel.
Voilà. Et que là, c'est justement l'Ishmael. Et la poussière, ça vient nous troubler, nous.
C'est
ça. Pardon, excusez-moi, j'ai enlevé ça. Et que là, en fait, c'est vrai que là-bas, on n'a encore que le mot Afar. Et ici, c'est Afar Haaretz. Donc, on joue en fait surtout sur le mot Haaretz qu'on va mélanger avec de l'eau et qui là va produire.
Une drôle d'idée, c'est d'abord cette histoire de Afar, de poussière. Parce qu'a priori, la poussière, c'est pas la terre. La poussière, c'est quasiment fichu, je veux dire. C'est irrécupérable, la poussière. Alors peut-être que Afar ne veut pas dire poussière. Vraiment. Et ça veut dire terre. Bleb, pardon ? Ou des particules d'air, mais pas vraiment de la poussière au sens habituel du terme. Mais même la poussière, la poussière de la terre, c'est la partie qui va être érodée, qui va disparaître au prochain coup de vent. Je veux dire, ça ne donnera rien du tout. Si c'est la nourriture du serpent, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans cette poussière, parce que le serpent, il ne se nourrit pas de rien du tout. Si dans la poussière, il n'y avait absolument rien, le serpent, en bouffant la poussière, il n'y a pas beaucoup de chance de... Peut-être qu'en fait, il ne mange pas la poussière, il traîne dans la poussière, mais il bouffe les souris, les petits animaux, les vermisseaux, les machins, je ne sais pas. Il bouffe tout ce qui traîne dans la poussière. Je ne suis pas un grand spécialiste du serpent, je ne sais pas ce qu'il mange.
Quel est le terme qui est utilisé dans la création d'Adam? Ce n'est pas la poussière, c'est la terre, je suppose. On dit, bon, tu es né de la poussière.
Mais Adama, c'est Adama. Adama, c'est la terre. Mais il y a des fois où Afar et Adama, c'est un mot pour un autre.
Pardon ? Excuse-moi, tu peux pas en rappeler la promesse que tu as fait à Agar, aussi que ta descendance sera nombreuse quand elle s'est plainte. Donc.
Elle aussi, tu veux dire ? Enfin, moi, je vois seulement, il lui a dit Arba Arbe et Zarek, Veloï Safer Merov. On ne pourra pas le compter, ça ne sera pas dénombrable. C'est pas marqué, il n'y a pas la référence dans le verset que j'ai devant moi, il n'y a pas de référence à la terre ou à la poussière. Ben, c'est déjà pas mal. C'est pas dénombrable. C'est quoi ? Un lèvre, je sais pas combien. Que
le
ça fait un bout de temps qui dure.
Mais voilà, c'est ça l'accent qui est mis sur sûrement la longévité.
Pas de
c'est intéressant là, c'est le rachis. La poussière qui survit au corps d'été. C'est là-dessus qu'il y a.
Tout sur quoi le sens simple du verset, c'est au contraire, ce sera très nombreux, etc.
Voilà.
Tu seras très nombreux et.
Voilà, à chaque fois, on fera s'éparpiller partout, etc. Mm-hmm. Là, c'est complètement inversé. Mm-hmm. On sera piétiné.
Ah, dans la suite, le texte, oui.
Oui, il raconte l'histoire du peuple d'Israël dans ce texte. Il parle de la serpente.
Quand il parle du poussière genre de la terre qui est fertile grâce à la semence, on est au niveau.
Sur deux.
Le niveau, du niveau. La seule poussière qui est fertile dans la terre, c'est dans ce que je
veux dire. C'est la terre, si tu ne l'arroses pas, il n'y a rien qui va pousser. Donc, parce que le limon, tu as raison, mais c'est le limon, il est déjà mouillé hein, initialement, quoi, si on parlait comme ça. Tandis qu'ici, on parle d'eau qu'on ajouterait à la poussière. Justement, le problème de la référence à la terre, à la poussière sous cette forme-là, est un peu dérangeant dans la mesure où ça fait justement référence non pas à un potentiel, mais à quelque chose d'épuisé. Je veux dire, quand c'est poussière, c'est après qu'on ait tiré tout ce qu'on pouvait de cette terre, il reste la poussière. Quoi. Il reste.
Là.
Alors c'est ça, mais ça marche seulement si tu ne traduis pas par vraiment poussière. Si tu traduis par afar comme étant un peu de terre, quoi.
Quand ils vont être oppressés, Corbeton, il dit que la Corbeton est.
De quoi ?
Là, il est dit de. Tout ce qui radie tout à fait, en parlant des mauvais.
Oui, non, mais ça c'est après. Ouais, c'est après. Ça c'est autre chose. La poussière qu'on piétine, c'est autre chose. C'est une histoire comme la poussière de la terre. On dit Ara Haaretz, poussière de la terre. On dit encore que c'est une poussière de la terre, y compris la poussière, si on verse de l'eau, on va récupérer un peu de la poussière aussi. La poussière va se remêler avec la terre. Je ne sais pas, il manque Soyeux ou quelqu'un pour m'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse idée que j'ai sur la poussière. Je vais essayer de me documenter pour la prochaine fois sur la poussière, savoir exactement ce que c'est que cette histoire de poussière, parce que j'arrive même pas bien à comprendre, ben, c'est pas seulement d'ici, mais quand Rabbi nous dit Anokhi Afarva Efer, il dit je suis poussière et cendre. Là, du coup, il est en train de faire référence, je suis plus rien. Parce que la poussière, c'est rien, tu peux mettre autant d'eau que tu veux, la poussière, il n'y a rien qui va pousser. Donc, quand il parle d'une fertilisation possible par l'eau, je pense qu'on est obligé de dire que, en tout cas, Afar à Aretz, c'est pas Afar, quoi. C'est pas la poussière.
Le désert,
ah, dans le désert, tu peux verser de la flotte, hein, il ne va rien se passer. Mais non, mais il faut travailler le désert. Il faut lui mettre des engrais, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui mettent. C'est pas simplement un peu d'eau.
Mais dans le passage que c'est écrit, effectivement, à part à Aretz, il y a le mot Aretz qui est collé, dans ce passage là de la Torah, il y a le mot Aretz qui est collé à Afar dans le passage.
Oui.
Il y a Afar qui est Afar à Aretz.
C'est ça. C'est pour ça que je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est que cette poussière. De... C'est pas la poussière qui est sur les meubles, non. Mais c'est la poussière. Ouais, alors il reste encore quelque chose, ça veut dire.
C'est par sa qualité de Arès qu'il arrive à monter ce courage.
Voilà. Je veux bien, mais fais-le. Je sais pas. Non, c'est pas une plaisanterie. Justement, les ossements de Yosef n'étaient pas poussière, justement. C'est pas devenu de la poussière. Ça, on va regarder ça pour la prochaine fois. Alexandre là-bas ? Alors on a Amiens.
Tout à l'heure, vous avez appelé l'expression du tato Shleva pour
Yaakov.
Et comment il faut lire la, comment dire, le parcours de Dina.
Dans Mitato Shlema, ça veut dire les fils qu'il devait.
Oui, d'accord.
Non, parce qu'il était, il devait être Mami le clan Israël, ça pouvait dire. C'est que tous ses enfants ont formé le clan Israël et personne n'est sorti. Même Dina, d'ailleurs, ça a été récupéré aussi. Parce qu'on a récupéré Rosnad d'après le Midrash qui dit que c'est.
La fille.
Sa fille avec Yosef, et au contraire même très grande, elle a même produit des Shvatim.
Et très bien fait.
Et même ensuite, si on dit l'enfant qu'elle a eu, Shaul ben Akhnaanit, alors c'est déjà un peu autre chose, l'enfant qu'elle a eu avec Shimon, qu'elle a épousé, bon, il est aussi dans le clan, je veux dire. Non, je crois que c'est sa méthode schéma, ça veut dire ceux qu'il a été en charge de produire, tous les garçons qui étaient censés, ce qui, par opposition,
pas perdu.
Oui, il n'y a pas eu de déchets, je pense.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Dina? Est-ce qu'elle a été chassée? Est-ce qu'elle a été.
Dina, non, mais c'est Shimon qu'elle a épousé. Shimon a épousé sa sœur.
C'est la sœur de la. C'est de la même mère?
Oui.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que je voulais.
Non, je voulais dire pas. Rien.